Nous allons terminer ce matin notre étude sur la sanctification qui aura donc pu être condensée en trois réunions. Et ce matin, nous allons considérer la part de Dieu à notre sanctification. Nous avons dit que la part de l'homme peut se résumer en ceci: une foi agissante par l'amour, une foi agissante, et puis la consécration, qui comprend l'adoration, le service, absolument tout. La foi à l'œuvre, toujours à l'œuvre, et puis la consécration. Ça, l'homme peut le faire. Ça, c'est à sa portée. Quand quelque chose est à la portée de l'homme, Dieu l'a laissé à l'homme. L'homme va donc faire ce qui lui revient. Il faut qu'il fasse sa part. Comme nous le disions hier, il faut s'offrir à la lumière. Si l'on se cache, si l'on se met dans les ténèbres, hors la lumière, il est évident que Dieu n'agira pas et que la sanctification ne se fera pas. Mais si nous sommes à la lumière, marchant à la lumière de Christ, nécessairement, cette lumière va faire ce que la lumière physique fait sur les plantes. Elle transforme des sels minéraux incapables de nourrir la plante en sève vivante qui, elle, est nutritive parce qu'elle procède d'un véritable miracle. La photosynthèse par la chlorophylle exposée au soleil est un véritable miracle. C'est un miracle. Les hommes ont quelquefois essayé de capter ça. Ils ont eu pendant un moment la grande ambition de vouloir capter ça. Ils se sont dit, il y a là une somme d'énergie extraordinaire. Ils n'y sont jamais arrivés. Quand on isole la chlorophylle, on a beau l'exposer au soleil, hors de la feuille, elle ne fait rien. Bon, eh bien nous sommes exposés à la lumière de Christ. Voyons maintenant la part de Dieu. D'abord, il faut mentionner ce que nous appelions hier la sanctification première, c'est-à-dire celle qui intervient au moment de la nouvelle naissance. C'est une importance capitale, bien sûr, et vous savez que la nouvelle naissance peut très bien se faire en un temps très court. J'ai dû mentionner l'année dernière, je crois, cette conversion qui a eu lieu en fin juin à Nîmes, fin juin 85, à Nîmes, d'une jeune femme qui ne connaissait absolument rien à l'Évangile, rien. J'ai pu la questionner tout de suite après, elle ne connaissait rien du tout. Elle était née dans une famille athée, et voici qu'elle entend le témoignage d'une sœur. Puissent nos témoignages être toujours aussi effectifs. Elle entend ce témoignage, et puis voilà qu'elle se met à parler en langue. Evelyne, elle s'appelle, c'est bien ça ? Evelyne. Elle se met à parler en langue. Bien. Alors, notre sœur était évidemment, c'est la première fois que ça lui arrivait, ça. Que tout de suite, là, quelqu'un spontanément se met à parler en langue. Bon. Alors, elle m'appelle, je viens, je questionne cette jeune femme, elle avait 27 ans. Donc, j'apprends qu'elle ne connaissait absolument rien. Je lui dis, mais vous n'avez jamais lu l'Évangile? Vous n'avez jamais lu, par exemple, ce qu'on appelle les épîtres de Paul, etc., de Pierre? Non, jamais, je ne connais pas. Mon père et ma mère sont une position, mettons, athée. Ils sont bien des catholiques, mais enfin, ils sont athées. Bon. Alors, je la questionne, et je m'aperçois que, dans ce peu de temps, elle avait eu une conviction de péché, elle avait reçu la grâce, aspiré au pardon de Dieu, reçu le pardon de Dieu, tout ça s'était fait en peu de temps. C'est extraordinaire. Ça peut quelquefois demander du temps, mais ça peut aussi être très rapide. Et le pasteur a été prévenu tout de suite, c'était M. Cosnard de Nîmes. Tout de suite, j'ai dit à la sœur, prévenez-le. Il est venu, il a constaté comme moi que cette femme était convertie. Et ça se passait le 29 ou le 30 juin 85, le dimanche 14 juillet en 85, il la baptisait. Et depuis, sa mère, qui en effet, quand j'ai eu un entretien avec elle, elle m'a dit « je suis athée ». Elle a dit « nous sommes athées ». Estimons que Dieu n'existe pas. Bon, maintenant, ça va peut-être changer, mais jusque-là, c'était notre position. Et maintenant, sa mère est convertie, elle parle en langue, elle chante en langue. Et alors, tout dernièrement, on nous a appris au téléphone que le mari d'Evelyne, qui est un conducteur de machines de locomotive électrique, ce garçon... qui alors a roué dans les brancards, vous pensez, aussitôt, quand il a vu sa femme parler de foi et d'évangile et vouloir aller aux réunions, il a évidemment réagi vigoureusement. Et maintenant, là, dernièrement, il vient d'être baptisé. Le père d'Evelyne, lui, n'est pas encore baptisé parce qu'on attend... mais enfin, il est tout de même dans une bonne voie. Et puis, il y a encore un jeune couple, dont la sœur d'Evelyne, que nous avons vu, et ceux-là, je m'attends à ce que bientôt aussi, ils soient baptisés. Voilà. Alors, vous voyez que, vraiment, n'est-ce pas, on peut parler de nouvelle naissance comme d'un acte créateur, on pourrait presque dire intemporel, qui ne consomme pas de temps. Quand ça traîne, c'est parce que l'homme résiste, il y a des choses, des arrachements qui lui font mal, il n'est pas encore prêt, c'est l'homme qui résiste, mais quand il se livre vraiment par la foi au Seigneur Jésus-Christ, à l'Esprit, je crois que la nouvelle naissance est immédiate. Et alors, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11. Chapitre 6 et verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et qui a été ainsi lavé et sanctifié? Eh bien, des gens qui étaient impudiques, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs. C'était pas la crème de la société. Eh bien, ils ont été lavés, sanctifiés. Ça, c'est la sanctification première. Voilà ce que Dieu fait, donc, au départ de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, qui, nous le voyons, n'est-ce pas, est le grand ouvrier de ces choses, le Saint-Esprit ouvre une relation nouvelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est lui le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Dans un même contexte, Romains 8, l'Esprit est appelé tantôt l'Esprit de Christ, tantôt l'Esprit de Dieu, et tantôt même Christ tout court. Eh bien, le Saint-Esprit, donc, ouvre une relation avec Dieu, et il va faire apparaître chez... celui qui vient de naître de nouveau, il va faire apparaître le vouloir et le faire. Comme le dit Philippiens, chapitre 2, et verset 13, chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'est-ce pas? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que Dieu, lui, n'est-ce pas, il connaît l'homme. Il sait ce qu'il peut introduire dans l'homme. Évidemment, il va, comme ailleurs le dit l'apôtre Paul, tenir compte d'une certaine mesure, tenir compte aussi d'une certaine capacité, le mot est employé dans Matthieu 25, à chacun selon sa capacité. Alors il y a une question de capacité, il y a une question mettons d'aptitude si vous voulez, n'est-ce pas? Et Dieu va donc faire apparaître le vouloir et le faire, une mesure de foi. Et le Saint-Esprit, alors, va à ce moment-là aussi donner un sceau, apporter un sceau et un gage. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est également très important. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de la gloire. Remarquez ceci, c'est que l'apôtre Paul, quand il emploie le mot rédemption, il le met dans le futur. Nous attendons la rédemption de notre corps. Il dit qu'en Christ, nous avons la rédemption. Il voit toujours la rédemption, l'accomplissement dernier du salut. Alors, vous voyez qu'ici, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a scellé celui qui est né de nouveau et lui accorde un gage de son héritage. Voilà le départ, voilà ce que Dieu fait au départ. Ensuite, l'Écriture nous montre différents aspects de l'œuvre de Dieu dans l'homme ou la femme qui sont devenus enfants de Dieu. Mais nous avons un texte à mettre en tout premier lieu, c'est Jean chapitre 16. Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors cela, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il vous conduira. Le conduira, ce n'est pas une action, par conséquent, qui va être immédiate et se produire dans un seul instant. Il vous conduira, ça demande du temps. C'est pendant toute la vie chrétienne que le Saint-Esprit vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité, ce qui veut dire il vous fera entrer dans la vérité par une expérience personnelle. Assez souvent, ce verset a été interprété de façon restrictive, et cela n'est pas bon. On dit « vous conduira dans toute la vérité », c'est-à-dire qu'il va vous apprendre tout ce que vous avez à apprendre, il va vous donner, vous permettre de recueillir toute la connaissance dont vous avez besoin et qui est consignée dans la Bible. Eh bien, cela bien sûr, mais notez que pour acquérir cette connaissance, il faut quand même du temps, il faut marcher, il faut progresser dans la vie chrétienne. Mais c'est précisément le Saint-Esprit qui va nous faire progresser, mais va nous faire entrer dans une vérité qui n'est pas seulement une connaissance, une information, mais qui est une vie. La vérité, c'est une vie. Nous le disions hier, c'est la vie même de Christ. Il va nous faire entrer dans cette vérité par une expérience personnelle. Le Saint-Esprit avec la sagesse de Dieu qui le caractérise, veut que nous fassions l'expérience. Et chers amis, c'est pourquoi d'ailleurs je dis ça en passant, c'est une digression, c'est pourquoi il n'est pas bon que si nous sommes assez avancés, hein, si nous avons, nous, une connaissance développée, que pour vis-à-vis des nouveaux venus dans l'Église, nous voulions leur inculquer ce que nous savons tout de suite. C'est pas bon. Il faut qu'ils en fassent l'expérience. L'expérience est indispensable. Bien sûr, on essaiera de leur éviter des mécomptes, leur éviter des accidents, des heurts, des difficultés. Mais il faut qu'ils fassent expérience. Et cela nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, je ne lirai que le verset 14. Chapitre 5, verset 14 des Hébreux, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faite. » Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ça c'est magnifique. Lorsqu'on a ce discernement, eh bien, il est évident qu'on peut marcher comme un homme fait, dont le jugement est exercé par l'usage. Quand on voit des choses, celle-ci, elle est de la volonté de Dieu, celle-ci ne l'est pas, n'est-ce pas ? Alors on va pouvoir choisir, évidemment, choisir, cela est excellent, et donc confère un jugement exercé par l'usage, c'est-à-dire par l'expérience. Et avant d'arriver à la nourriture solide qui est pour les hommes faits, les hommes mûrs, mûrs, spirituellement mûrs, eh bien, la Bible nous montre qu'il y a des enfants qui ont besoin d'un lait. Un lait, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un lait. Vous avez besoin, dit notre contexte, qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Au sujet de discernement, disons aussi en passant, rappelons qu'il y en a trois. Il y a trois formes de discernement. Il y a le discernement du bien et du mal, nous l'avons ici. Discernement, c'est un discernement extrêmement important. Vous avez le discernement des esprits. Il y a un don pour cela, mais chaque chrétien en a besoin. Il y a bien un don de foi aussi, mais chaque chrétien a besoin de la foi. Alors donc, le discernement des esprits, et puis le discernement des temps. Le discernement des temps. Alors, voilà donc ici comment le Saint-Esprit nous conduit, nous fait entrer dans la vérité par une expérience personnelle. La vérité, avons-nous relevé hier, la vérité sanctifie, c'était dans la prière sacerdotale de Jésus, et la sanctification est impossible sans la vérité. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils pourront être sauvés sans la vérité. Mais ce n'est pas possible. La vérité, évidemment, comme me disait un jour un pasteur réformé à Alger, qui était venu me voir dans mon bureau, et nous parlions de vérité. Oh, il me dit, vous savez, monsieur, la vérité, hein, la vérité, chacun en a une petite parcelle, il faut être humble. Qui peut dire qu'il possède la vérité? Alors je lui ai dit, écoutez, monsieur le pasteur, tant pis si je suis pas humble, mais moi je vais vous dire que j'ai la vérité. Évidemment, il n'a pas apprécié ça. J'ai dit, mais écoutez, nous avons ou nous n'avons pas Jésus? C'est pas moi la vérité, c'est pas moi, elle n'est pas moi-même la vérité, elle est Jésus, c'est Jésus. Et si l'on est chrétien et que l'on a Jésus dans son cœur, on a la vérité, c'est lui la vérité. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans une marche avec Jésus. Le Saint-Esprit conduit. Alors ça, c'est une chose que nous avons à revoir aussi dans Romains 8. Romains 8. Est très important ce fait que le Saint-Esprit conduit. Et l'Ancien Testament le disait déjà. Le disait déjà. Mais prenons Romains 8, verset 12 à 16. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et voici le verset qui nous intéresse surtout, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est la magnifique définition du Fils de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu. Si le fidèle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, l'Esprit produira en lui. Tout à l'heure, nous avons vu que Dieu produit le vouloir et le faire, mais le Saint-Esprit va produire également en lui les sentiments et la soumission qui correspondent à la dignité de fils d'adoption. Mais le fils d'adoption est traité comme le fils d'essence divine, n'est-ce pas, comme le fils unique. Donc, le Saint-Esprit va produire les sentiments et la soumission qui correspondent à la dignité de fils, et c'est pour ça que, dans le contexte, nous voyons que celui qui est conduit par l'Esprit va dire « Abba, Père ». Abba, Abba, ça veut dire « Père », ou on a traduit quelquefois « Papa ». C'est plus familier que « Père hein ».« Abba, Père ». Et c'est le mot que Jésus a prononcé lui-même, adressant à son Père, « Abba ». L'esprit d'adoption, dans le contexte, il est question d'esprit d'adoption. Je n'ai pas lu les versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Et l'esprit d'adoption avec un grand T, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, mais quand il a une fonction particulière à exercer, on lui donne volontiers le nom de cette fonction. Alors donc, l'esprit d'adoption, c'est l'Esprit Saint qui va communiquer à l'enfant de Dieu les privilèges impérissables du Fils. Non seulement il va lui donner les sentiments, la soumission qui correspondent à la dignité de fils, mais il va aussi lui donner les privilèges impérissables du fils. Il va même transformer ce fidèle en l'image du fils éternel de Dieu. Et puis, comme nous le voyons, il atteste que le fidèle est fils de Dieu. Il ne laisse pas ce fidèle dans l'incertitude, et il complète, en somme, l'assentiment de sa conscience en lui rendant témoignage qu'il est fils de Dieu. C'est magnifique, ça, vous savez, on a quelquefois étudié ça, ce témoignage du Saint-Esprit qui nous dit « Tu es fils de Dieu, tu es vraiment le fils de Dieu ». C'est magnifique, ça. Ils ont une chose à rechercher au-dessus de tout. Déjà, le psalmiste, comme je vous l'ai dit, l'Ancien Testament avait déjà prononcé ces choses. Vous savez, il y a un grand accord entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Le psaume 143, le psaume 143 et le verset 10... Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et Jésus n'ignorait pas tout cela, ce qu'il a prononcé dans Jean était en accord avec ça, dans son esprit. Enseigne-moi à faire ta volonté, c'est bien ce que Jésus aussi enseignait, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Rappelons-nous que Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit. Et comme nous voulons toujours ne pas perdre de vue que nous marchons à l'exemple du Seigneur, que nous le suivons, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4 dit, l'Esprit conduisit Jésus. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Paul aussi. Dans les Actes, nous voyons que Paul aussi a été dirigé par l'Esprit, et même à un moment, il dit « Je suis lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Je suis lié. » Alors, s'il y a aussi un texte dans Galates qui nous dit ceci, que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Et ça c'est presque évident. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, ce n'est plus la loi qui va nous conduire. On ne la méprise pas, la loi. Elle est de Dieu, elle est bonne. Mais ce n'est pas elle. Elle n'est plus l'instrument propre à nous conduire. C'est l'Esprit qui nous conduit. Voilà la grande caractéristique du temps de la grâce. Conduit par l'Esprit. Et puis, n'oublions pas aussi que Jésus est appelé directeur. Il a voulu lui-même se donner ce qualificatif. Un seul est votre directeur. Et puis, il était appelé aussi conseiller. C'est un peu dans la même idée. Et c'est lui qui conduit, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus qui conduit beaucoup de fils à la gloire. Au chapitre 2, verset 10 des Hébreux, le Seigneur, donc, veut conduire beaucoup de fils à la gloire. Il conduit, l'Esprit conduit. Actuellement, le Seigneur, Jésus, c'est l'Esprit. C'est ce que nous dit Paul. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous le connaissons comme l'Esprit, maintenant. Alors, ceci étant vu, nous pouvons dire aussi que l'Écriture nous montre que Dieu travaille à l'affermissement du chrétien. Ça, c'est une œuvre que Dieu s'est particulièrement réservée. Chapitre 14 des Romains et verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Dans la même épître, au chapitre 16 et au verset 25, à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, je ne vais pas plus loin, à celui qui peut vous affermir. Donc, Dieu s'est proposé cela d'affermir. Dans 1 Corinthiens 1, verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, ça peut être pour tous nos devanciers qui sont morts, ça a été le jour de leur mort. Le jour où ils ont quitté la terre, pour eux, n'est-ce pas, tout était réglé sur la terre. Après ça, ils n'avaient plus qu'à attendre dans la cité céleste le moment de la résurrection. Donc, vous voyez qu'au cours de notre vie chrétienne, par conséquent, eh bien, le Seigneur désire nous affermir. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen, l'amen qui veut dire en vérité, c'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Voilà donc quelque chose de solennel, d'important. Dieu poursuit cette œuvre d'affermissement. Cela procède du surnaturel, ce n'est pas à la portée de l'homme. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a annoncé que Lazare ressusciterait, ton frère ressuscitera, non pas à la fin des temps, mais maintenant ton frère ressuscitera, il est là devant le sépulcre, et puis, alors, il demande que l'on ôte la pierre, que l'on roule la pierre. Ça, les hommes peuvent le faire. Pas la peine d'envoyer un ange, n'est-ce pas, pour rouler la pierre, les hommes peuvent le faire. Alors, il roule la pierre, mais alors là, voici le surnaturel qui arrive, Lazare sort. Ça, personne ne peut le faire. Personne ne pouvait le faire que Jésus. Lazare sort. Et puis quand il est sorti, il est encore tout lié avec les bandelettes. Alors là, Jésus donne l'ordre de le délier. Ça, les hommes peuvent le faire. Hein? Vous voyez comment ce partage, raisonnablement et dans la sagesse de Dieu, dans la lumière de Dieu, la part de l'homme et la part de Dieu. Tout ce qui est surnaturel revient à Dieu. Et Dieu l'exerce avec sa fidélité, sa grande fidélité. Il nous est aussi dit que le Seigneur nous fortifie. Mais dans les Éphésiens, au chapitre 6, se trouve une recommandation, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous. Voilà, ici nous sommes donc priés, conseillés de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bon, mais comment se fortifier dans le Seigneur? Eh bien, dans le Seigneur. Il faut par conséquent être absolument sûr de sa relation avec le Seigneur. Il faut utiliser cette relation magnifique. Et lorsque Dieu dit « fortifiez-vous dans le Seigneur », il nous enjoint, en somme, de puiser notre force en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'utiliser la force du Seigneur. Et par conséquent, ce n'est pas la nôtre, c'est la force du Seigneur. Il y avait, alors, c'est toujours intéressant de voir la concordance du Nouveau Testament et de l'Ancien, j'aime beaucoup cela. Et dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, il y a un très beau passage. Chaque fois que je tourne les pages d'Ésaïe, je ne manque pas de m'arrêter là. Chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes, ils chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Et voilà, n'est-ce pas, en effet, tout cela est en bonne concordance, en bonne harmonie avec ce que nous demande le Nouveau Testament, c'est-à-dire, en somme, la parole de l'Alliance de la Grâce. Et donc, si Dieu nous demande de nous fortifier dans le Seigneur, il promet qu'en faisant usage, si je puis dire, de notre relation avec le Seigneur, eh bien, il promet que notre force sera grande. Il y a maintenant un autre passage que je voudrais voir aussi avec vous, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce dont parle l'apôtre Paul ici, c'est tout simplement le don du Saint-Esprit, qui a en effet ce triple aspect. C'est un don de force ou de puissance, c'est la même chose, de force, d'amour et de sagesse. Dans le grec, il y a là 3 mots caractéristiques du Nouveau Testament. Trois mots très caractéristiques. Il y a d'abord dynamis, et cette dynamis, on la rencontre partout, c'est la dynamis qui a fait naître Jésus de la Vierge, Marie. C'est la dynamis qui a ressuscité le Seigneur Jésus, la dynamis qui nous est aussi promise, cette force, la dynamis. Puis le second mot, c'est agapé, bien connu, c'est l'amour de l'esprit. Et le troisième mot devrait être normalement Sophia, puisque c'est, oui, mais ce n'est pas Sophia, c'est sophronismos dans le texte, dans le contexte. Ça devrait être Sophia, mais c'est sophronismos. Alors là, les traducteurs ont eu de la difficulté. Alors il y en a qui ont traduit par conseil, modération, sobriété. Maintenant, on traduit surtout par maîtrise de soi et par sagesse, en somme. Mais on peut dire que, bien que ce ne soit pas Sophia, le mot sagesse convient. Parce que il s'agit tout simplement, sophronismos veut dire une sagesse qui est quand même une maîtrise de soi, une sobriété. L'idée de sobriété est très puissante dans le Nouveau Testament. Elle est associée d'ailleurs à l'idée de sobriété, à l'idée de vigilance. Les deux idées sont associées. Alors donc, sagesse. Il y a 3 choses, en effet, qui se tiennent. C'est la puissance, l'amour et la sagesse. Et on peut démontrer facilement qu'il n'y a pas de vraie force hors de l'amour et hors de la sagesse. Qu'il n'y a pas d'amour sans que la force soit là, parce que l'amour a de la puissance. L'amour, il est plus puissant que le séjour des morts. L'amour a de la puissance, et puis, il n'y a pas de force ni d'amour si, en même temps, il n'y a pas cet équilibre, cette sagesse qui est là. Vous voyez, les 3 choses se tiennent. C'est tout à fait merveilleux. Alors donc, ça, c'est un don. C'est un don pur et simple de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors, je ne m'arrête pas là-dessus, et je voudrais encore mentionner quelques-unes des prières de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous parle de ses prières, c'est tantôt pour les Éphésiens, pour les Corinthiens, pour les Philippiens ou pour les Colossiens, ça n'a pas d'importance, évidemment... La lettre a eu des premiers destinataires, mais nous sommes, nous, les autres destinataires, nous sommes destinataires de tout cela aussi. Et alors, dans Éphésiens, chapitre 1, vous voyez comme il faut pas avoir peur de tourner les pages, Éphésiens, chapitre 1, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin, alors voilà ce qu'il demande, voilà l'objet de cette prière ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, hein, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez et quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa dunamis, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en effet. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, cette dunamis. Et il nous la promet. Mais alors, voyez ici, n'est-ce pas, si Paul demande à Dieu cela pour des chrétiens, pour nous, nous sommes intéressés à cela, eh bien, c'est que Dieu va nous l'accorder. Paul était guidé dans ses prières par le Saint-Esprit, il est même un écrivain sacré, il est inspiré du Saint-Esprit. Il a donc été guidé dans ses prières, comme les psalmistes. Le psalmiste, en général, le psalmiste, il s'exprime presque toujours en prière. Les psaumes, c'est presque, on dit, mettons, 80% de la prière. Et c'est de la prière qui est devenue parole de Dieu. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est une prière qui est devenue parole de Dieu. Et dans cette prière, donc, il demande des choses précieuses que Dieu va nous accorder. Par conséquent, nous pouvons compter sur Dieu pour avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est magnifique. Je vous laisse méditer là-dessus. Un esprit de sagesse et de révélation. Chers amis, il faut que nous sachions que de méditer la parole de Dieu, c'est bien, ça nous fait un bien énorme. Mais il faut que cette méditation soit complétée par l'Esprit de Dieu, par un esprit de révélation. Selon 1 Corinthiens 2, à ceux qui l'aiment, l'Esprit révèle tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, il nous faut cet esprit de révélation. Je rappelle quelquefois, enfin je vais aller très vite pour mentionner ce fait, un fait qui a beaucoup marqué ma vie chrétienne. Un jour que je priais, le soir dans mon jardin, à Alger, et que je disais, c'est le Saint-Esprit qui m'avait fait dire ça dans ma prière, mais Seigneur, ton amour, bien sûr, j'y crois, il est affirmé dans l'Écriture, et c'est en raison de cet amour, tu l'as manifesté par le don de ton Fils comme victime expiatoire. Mais ça, j'y crois de toute ma force. Mais je disais à Dieu, mais je le connais pas. J'ai l'impression que je connais pas ton amour, je le connais pas. J'y crois, mais je le connais pas. Et alors, c'est revenu dans ma prière. Puis au bout d'un moment, voilà je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà que le Saint-Esprit tombe sur moi. Et puis me donne, sans un mot, sans une parole, sans rien, me donne le sentiment de l'amour. Me donne à sentir, à éprouver ce qu'était l'amour de Dieu. Au point que j'ai dit, mais c'est fantastique. Mais c'est fantastique l'amour de Dieu. Oh, c'est ça l'amour de Dieu, c'est immense en effet. Et comme Paul l'a eu, n'est-ce pas, dans les Éphésiens, qu'il dit, il parle de largeur, de longueur, de hauteur et de profondeur, en montrant que ces dimensions sont infinies, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai, l'amour de Dieu est cela. Alors là, c'était, en somme, dans cette expérience, un esprit de révélation qui, en somme, apportait ce que l'Écriture seule ne peut pas nous donner. L'Écriture seule peut alimenter notre foi, par exemple sur ce chapitre de l'amour, et nous montrer qu'il faut croire à l'amour, qu'il faut désirer l'amour, en être rempli pour pouvoir aimer le Seigneur et le prochain. Bon, mais il faut tout de même l'éprouver, cet amour. Il faut que notre esprit soit vraiment mis au contact de cet amour. Et ça, vous voyez, l'esprit de révélation peut le faire. Et il y a d'autres choses comme ça. Des choses que nous lisons dans les Écritures, que nous acceptons par la foi, joyeusement, mais l'esprit de révélation est un don magnifique de Dieu. Relisez chapitre 2 de 1 Corinthiens. Chapitre 2, je ne vais pas le faire maintenant. Et puis ensuite dans Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Nous retrouvons là un discernement des choses les meilleures, c'est-à-dire des choses qui sont le bien, et la volonté de Dieu, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Encore un passage magnifique, et vraiment l'apôtre Paul avait de ses prières, n'est-ce pas ? Elles étaient inspirées. Eh bien, ce sont des prières pour nous, ce sont des prières que nous pouvons prendre à notre compte, nous, et demander ça au Seigneur, que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que je puisse discerner les choses les meilleures, que j'ai un bon discernement, que je ne puisse pas m'égarer, considérer quelque chose de profane comme quelque chose de saint, ou quelque chose d'impur comme quelque chose de pur, mais que tout ce discernement me permette de tout évaluer, de tout considérer à la lumière de Dieu. Et cela nous rendra irréprochables. Voyez-vous comme le Seigneur peut travailler à nos progrès, parce que cette prière, eh bien Dieu encore l'exauce, elle est assortie d'une promesse. Si Paul a demandé ça, c'est que Dieu entend le donner. Et puis, alors, Colossiens, vous avez une autre prière, Colossiens chapitre 1, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ah, là, il y a quelque chose qui vraiment est nécessaire, c'est la sagesse dont nous parlions tout à l'heure. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant, grandissant, par la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la relation avec Dieu, fortifiée à tous égards par sa puissance glorieuse, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà. Alors, si Paul, toujours la même chose, peut demander cela sous l'inspiration de l'Esprit, c'est que Dieu entend l'accorder. Seulement, Dieu aime bien qu'on lui demande ce qu'il en veut donner. Il nous montre. Dieu nous montre ce qu'il entend donner, mais il veut que nous le demandions. Et d'une manière générale, nous pouvons dire que Dieu ne nous donnera rien si nous ne demandons rien dans la vie chrétienne. Si nous ne sommes pas intéressés par quelque chose, il ne va pas nous le donner de force. Mais il veut que nous le demandions. Le Seigneur l'a dit suffisamment, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. On donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe. Voyez-vous, nous sommes invités à demander. Et il faut par conséquent que nos prières, bien dirigées, puissent inclure toutes ces choses que Dieu entend nous donner pour nous enrichir. Et puis dans 1 Thessaloniciens 5, alors là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et pas vous, c'est lui qui le fera. Quand ça a été une erreur aussi que j'ai malheureusement trouvée dans certains ouvrages, des auteurs ont l'air de conseiller aux chrétiens de se sanctifier. Mais on ne peut pas, c'est une œuvre surnaturelle. On peut se consacrer, oui, s'offrir pour recevoir le feu du ciel, la sanctification, hein, mais on ne peut pas le faire soi-même, c'est une œuvre surnaturelle. C'est comme si on, on, on demandait de se faire naître soi-même, n'est-ce pas? C'est la même chose, on ne peut pas, il faut que ce soit la puissance de Dieu qui le fasse. Bien. Et faudrait encore que je mentionne maintenant la croissance. Dieu veut faire grandir, nous faire croître. Et nous pourrions regarder l'une des petites paraboles sur le royaume dans Marc 4. Marc 4 et verset 26. Marc 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ça me rappelle une petite fille qui avait planté un grain de maïs dans son petit jardin, la terre, puis elle avait vu sortir quelque chose. Alors, ça n'allait pas assez vite à son gré. Alors, une fois, elle se dit, mais je vais tirer dessus. Alors elle a tiré dessus, et tout est venu avec la racine, naturellement, n'est-ce pas? Elle a voulu tirer dessus. Eh bien, il n'y a pas à tirer dessus, voyez, comme le dit le Seigneur, qu'il dorme ou qu'il veille, l'homme, le cultivateur, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ainsi, Jésus nous conduit jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement. C'est ça, la grande moisson. Il nous conduit jusque-là, n'est-ce pas, et il nous dit, le royaume de Dieu, eh bien, c'est ça. Si la semence est dans la bonne terre, hein, eh bien, il y aura lieu d'arroser, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, c'est pas ? Il faut arroser, il faut arroser, il faut planter, il faut arroser, hein ? Il faut soigner. Mais c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait grandir, Dieu qui fait croître. Et ça, c'est capital, c'est énorme. Le développement de la vie nouvelle en nous, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu. Seulement, n'est-ce pas, il ne faut pas que ces choses nous amène à une mauvaise conclusion. Hein. Faut pas qu'on dise, bon, puisque c'est Dieu, bon. Alors, tournons-nous les pouces et puis ne faisons rien, n'est-ce pas? Non, ce serait pas la sagesse, ça. Pas. Faisons toujours ce que nous avons à faire, que le juste se justifie, se pratique encore la justice. Le juste pratique encore la justice. Celui qui se sanctifie encore. Mais c'est Dieu qui va faire cela. Et, ma foi, nous allons conclure sur un beau texte d'Ésaïe, un beau texte du prophète Ésaïe au chapitre 35. C'est très beau. Il y aura là un chemin frayé. Un chemin ouvert, un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et elle y est maintenant, la route. Elle est frayée. Nul impur n'y passera. Il faut être purifié par la parole de Dieu. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ça paraît drôle, ça, qu'on ait mis ici les insensés. Pour parler de ceux qui sont purs. Eh bien, c'est que, oui, au cours de notre vie chrétienne, il y a des moments où nous sommes un peu insensés. Parfois, si vous voulez. Nous avons encore de l'humain. Hein. Ça arrive, ça. Mais même cela ne va pas nous amener à nous égarer. Sur cette route, point de lion, le diable n'y est pas. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen.
Amen.
Voilà la bonne conclusion, je crois. Seigneur, nous te bénissons pour avoir scellé ces choses dans ta parole, pour nous en avoir fait une parole et une promesse, ô notre Dieu, notre Père, pour maintenant, dans ta fidélité, accomplir ces choses pleinement. Ô Seigneur, nous sommes dans ta main et nous en sommes heureux. Nous le désirons de toute la force de notre âme. Nous sommes dans ta main, Seigneur. Ta main nous conduit. Ton esprit nous dirige, ô notre Dieu. Et Seigneur, veuille que nous soyons toujours appliqués à la prière pour pouvoir précisément toujours exprimer notre désir des choses glorieuses que tu veux nous accorder pour notre croissance, pour le développement de la vie nouvelle en nous, Seigneur, ô Dieu de paix, et afin que, au jour venu, nous paraissions irrépréhensibles et sans tâche. Comme tu le veux, Seigneur, et cela, tu le feras, tu l'achèveras, car, Seigneur, tu es un Dieu qui jamais n'abandonne sa parole et ses promesses. Tu le feras, nous en sommes convaincus, certains, et d'avance, nos cœurs te louent et te bénissent. En Jésus, Amen.